OK, ça vient de sortir, là, le festival de jazz et les francopholies annulés pour cet été. On s'y attendait un peu, hein, mais ça nous fait toujours un petit pincement au cœur. Et le festival Juste pour rire, reporté à l'automne. On verra ce qui en restera rendu là. Donc, le virus qui est probablement à son plein potentiel, c'est ce qu'a dit hier la docteure Mylène Drouin, la directrice régionale de la santé publique. Là. On serait vraiment dans le pire de la propagation. Et là, on lit dans le papier de Pauline Gravel de ce matin dans Le Devoir qu'à peu près le quart des personnes infectées ne le sauraient pas. Elles seraient asymptomatiques. On s'en va rejoindre le docteur Alain Vadeboncœur, le chef du service de médecine d'urgence à l'Institut de cardiologie de Montréal. Bonjour Alain.
Oui, bonjour Bernard.
25%, c'est vraiment beaucoup. Est-ce que ça t'a surpris, toi?
Non, pas tant que ça. Il y avait quand même, pour le chiffre exact, là, je ne le savais pas, mais tu sais, on en parle quand même depuis un bon bout de temps, là, de la transmission asymptomatique potentielle. Il y avait des doutes au début. Est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? On commence à avoir de meilleures données là-dessus. Le papier de Pauline Gravel, d'ailleurs, une excellente journaliste scientifique, là, est intéressant. En même temps, un peu inquiétant, évidemment, dans la mesure où on se méfie pas à soi-même hein, quand on est asymptomatique et on se méfie pas des autres non plus. C'est à la fois embêtant. La seule bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on sait que le virus peut frapper sans faire trop de mal. Et ça, c'est une preuve de plus. Là. Mais bon, c'est ambivalent comme information.
Ce qui est intéressant dans ce papier-là aussi, c'est on parle de la buée de salive. L'exemple qui est donné dans le papier, et puis elle cite pour ce faire le docteur Don Vinn, là, qui est un médecin microbiologiste au CUSUM. Lui, il dit quand on parle, on expulse des sécrétions. Et là, il dit que, dans le fond, il y a des fines particules qui voyagent dans l'air et qui peuvent nous contaminer. Et il donne l'exemple de la condensation. Quand il fait froid l'hiver, puis on parle, on dégage, on produit une condensation avec notre souffle. Et donc, il dit, voilà l'exemple. Voyez-vous, quand vous faites ça, là, vous voyez ce que ça fait? Bien, c'est de cette manière-là que le virus peut se transmettre.
Oui, ça serait étonnant, en fait, c'est sûr qu'il y a des méthodes plus efficaces. Hein. On sait que l'éternuement, c'est une projection spectaculaire. La toux est une projection assez forte. Mais c'est sûr que quand on parle, on n'a qu'à s'écouter parler. On fait plein de consonnes comme des P et des T. Mais ça, c'est des petites explosions. Ça aurait été surprenant qu'il y ait zéro virus. Hein. On sait qu'on n'a qu'à parler. On a tous vu des gens postillonner en parlant aussi. Donc, il y a même des grosses gouttelettes. Donc, c'est pas très surprenant. Je pense que c'est une question de gradation de mécanisme. C'est probablement beaucoup plus difficile d'infecter quelqu'un quand on lui parle, mais j'imagine que ça doit faire partie des mécanismes possibles, en tout cas, à bas bruit, pourquoi pas. Et si c'est le cas, ben ça ne fait que renforcer le message de base, qui est qu'il faut garder distance, peu importe qui on est, si on a des symptômes ou non. Et c'est peut-être de ça que les gens se méfient pas.
L'autre chose aussi qui est très intéressante, c'est pas juste un virus, mettons, qui nous infecterait. Il faudrait être exposé à une dose minimale de virus.
Ben en fait, ça c'est connu pour toutes les infections virales. Donc, un virus, si on veut, quand les virus ne viennent pas en gang, ils ne peuvent pas faire grand dommage. Si un virus débarque, il va se retrouver face à une armée nettement plus importante que lui et il va se faire démolir. Donc, ça prend effectivement ce qu'on appelle un inoculum, c'est-à-dire un certain nombre de particules virales, là, pour si on veut, avoir un effet suffisant pour traverser les premières barrières, dans le fond, et réussir à pénétrer dans l'organisme. Et ça, c'est vrai pour un peu n'importe quoi. Même quand on se blesse, une coupure, c'est un peu la même chose. S'il y a deux, trois bactéries qui se promènent là, puis il y en a tout le temps, c'est pas bien grave. Mais s'il y en a 10 000 ou des millions, ben ça devient assez différent. Donc, c'est un peu la même donnée. Donc, étant peu exposé, il y a probablement peu de transmission, mais s'il y en a suffisamment, si on est très proche des gens, si on pense au métro, supposons, si on est à côté de quelqu'un très proche, puis il parle à côté de nous, probablement que s'il est infecté puis il est en transmission, ça peut nous affecter davantage. Mais ça prend effectivement une dose de virus pour, si on veut, passer à travers les défenses.
Est-ce qu'on en sait davantage, Alain, sur le rôle que les systèmes d'aération pourraient jouer? Est-ce qu'on est certain, en d'autres mots, que le virus ne peut pas voyager par les systèmes d'aération des édifices, puis on peut penser à des systèmes d'aération dans les avions, par exemple. Est-ce qu'on est certain à 100% que ça ne peut pas voyager par ces systèmes-là?
Ben, ça serait surprenant que les virus ne puissent pas voyager du tout. Hein. On n'a qu'à penser à ce qu'on fait dans par exemple, des chambres à pression négative. Hein. Quand il y a des aérosols générés, par exemple, dans une manœuvre d'un arrêt cardiaque, une intubation, on sait que ces particules-là restent en l'air. Et la pression négative, le but, c'est de sortir l'air vers l'extérieur, vers des structures filtrées, d'ailleurs, pour éviter que ça rentre à l'intérieur de l'urgence. Fait que c'est sûr que on peut aspirer des aérosols à travers un conduit quand il y a une ventilation. Jusqu'à quel point, par contre, ça peut contaminer ailleurs? Ça, honnêtement, j'ai pas la réponse à cette question-là. Mais des aérosols, c'est sûr que si tu es à côté d'une bouche d'aération, il va être attiré vers ça. Est-ce qu'il va se rendre à l'autre bout? Est-ce qu'il peut contaminer? Je risque pas une réponse. Là.
Donc, il pourrait voyager sur une certaine distance. Mais justement, quelle est l'espèce de distance maximale sur laquelle le virus pourrait se déplacer? Ça, c'est pas clair encore, là.
Ben, c'est pas clair pour moi, en tout cas. Faudrait parler à quelqu'un qui est un ingénieur ou un microbiologiste dans la mécanique de ces fluides de gazeux-là. Non, ça doit être complexe.
Dites-nous en terminant, Alain, comment ça va?
Écoute, ça va, c'est variable. Hein? On est tellement, nous, dans l'action. C'est pas juste l'action de soigner. Là. Tous les gens avec qui je travaille, c'est sûr que moi je travaille à l'hôpital, là, mais tout le monde est impliqué dans les changements. C'est incroyable la quantité de choses qui se fait actuellement dans les hôpitaux pour transformer les façons de faire, pour s'adapter à ça en continu parce que les informations changent beaucoup. Fait qu'étant beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'action, j'ai assez peu de temps pour, si on veut, me morfondre sur moi-même. Mais il y a des moments un peu plus difficiles. Je dirais que c'est peut-être le niveau de stress quand on travaille qui est un peu plus élevé. Emmener, on pogne l'habitude, là, mais quand tu arrives à ton corps de travail, puis on te met toutes tes protections, tu sais que tu vas voir des patients potentiellement contaminés, chaque geste devient beaucoup plus complexe, mesuré, décidé. Déjà, l'urgence, c'est quelque chose d'assez compliqué, il faut faire attention à plein de choses. Et là, il y a comme le stress de dire, OK, est-ce que j'ai mis ma main là? OK, il faut que je fasse attention. Oups, j'ai touché à mon masque, il ne faut pas que je touche à mon masque. C'est toutes des choses qu'on n'est pas habitué. Et je dirais que ça double ou ça triple, si on veut, l'intensité du stress dans ces contextes-là. Mais en même temps, on finit par s'habituer un peu. T'sais, en fin de quart, ben, on prend certaines habitudes. Puis les gens sont très, très, je dirais, solidaires dans les milieux. Puis bon, il y a des tensions, c'est sûr, ben, mais on s'entraide. On se dit, ah non, t'es mal protégé, faut que tu fasses ça. Fait que ça va de pas pire à des fois un peu stressé. Mais bon, on passe à travers.
Alain Vadeboncœur, merci beaucoup. Lâchez pas, bon courage.
Grand plaisir, Bernard.
François Legault après la pause.